Chapitre 2. Holmes arriva au cimetière de Rock Creek juste avant 19h et dit au cocher de ne pas l'attendre. Quelle que soit l'issue de la soirée, il n'aurait pas besoin d'une voiture pour rentrer. Le soleil venait de disparaître derrière la forêt à l'ouest du cimetière, mais la douce lumière printanière n'était pas pressée de partir et on pouvait compter sur encore au moins une heure de jour. Il se rendit directement au mausolée de Clover Adams. Il avait pris avec lui sa canne épée et son petit revolver presse-citron, tout en sachant cette précaution inutile pour se défendre si Lucan Adler se tenait en embuscade, muni d'un fusil longue portée. Or, il avait précisément donné rendez-vous à Irene Adler le mardi, dans le but de lui laisser une journée entière pour en informer Lucan. Il avait appris à ses dépens, lors de sa cuisante expérience dans l'Himalaya, que l'on n'entendait effectivement pas le tir d'un fusil longue portée, en tout cas pas celui de 3 balles chemisées d'acier. Elles vous transperçaient trop vite, puisque leur vélocité était supérieure à celle du son. Il avait d'abord senti 3 chocs incroyablement puissants le heurter dans le dos et le flanc, avant d'entendre les 3 détonations, suivies de leur écho dans la montagne. La réalité de ces blessures restait douloureusement présente pour Holmes, qui s'était fait sa 2e injection d'héroïne de la journée juste avant de quitter l'hôtel. Dans ce cimetière, il n'entendrait pas l'écho du coup de feu. Il atteignit sans encombre l'ouverture dans la haie du mémorial, mais s'arrêta un instant à l'extérieur du passage, voulant s'assurer que les rayons du soleil qui passaient à travers les arbres, presque à l'horizontale, n'annonceraient pas son arrivée en projetant une ombre trop longue. Voyant qu'il n'en était rien, il entra. Il était le premier. Parfait, songea-t-il en traversant l'hexagone pour s'asseoir sur le banc du 3e côté, le plus proche de la statue de Saint-Gaudens et le plus éloigné du passage dans la haie, ce qui le protégerait de toute personne cherchant dans son viseur les occupants de l'enclos. Si Lucan Adler voulait en finir avec lui ce soir, il devrait approcher pour la voir, assez près pour se parler. Au bout de 25 minutes, alors que le jour baissait, une silhouette noire obscurcit l'ouverture de la haie. Elle approcha de Holmes dans la douce odeur d'herbe coupée que portait l'air du crépuscule. Holmes se leva. Le passage du temps n'avait pas laissé de traces sur Irene Adler, qui lui sembla en tout point semblable à celle qu'il avait quittée. Elle avait gardé toute sa beauté, un charme infiniment plus subtil que ce que laissait entrevoir la photo du programme d'opéra qu'il avait montré autour de lui. Contrairement aux habitudes, elle ne portait pas de gants et sa robe à manches 3/4 révélait ses avant-bras blancs. Elle tenait un petit sac à main de toile, assez grand pour contenir un pistolet Derringer à 2 coups, songea Holmes, qui bannit aussitôt cette pensée. Que ce soit pour aujourd'hui ou pour plus tard, ou pour encore plus tard, cela n'avait plus d'importance. Il savait à présent combien les paroles de Hamlet étaient vraies quand il disait « Soyons prêts, voilà tout. »
Sherlock.
La voix d'Irène fit vibrer une corde dans les profondeurs de son être. Elle traversa l'enclos et lui tendit la main à l'américaine, mais il s'inclina et lui fit un baise-main.
« Bonjour, Irène. »
Il vit qu'il lui retenait la main beaucoup plus longtemps que ne le dictait la politesse, et soudain gêné, il recula et lui désigna le banc à haut dossier où il avait été assis, à la place la plus proche de la sculpture.
« Voulez-vous vous asseoir avec moi ?»«
Naturellement, »
répondit-elle. Ils restèrent assis côte à côte en silence, sans tout à fait se toucher, pendant un long moment, peut-être 3 ou 4 minutes. Holmes sentait l'humidité descendre sur la végétation derrière eux. Le crépuscule s'épaississait, mais les étoiles n'étaient pas encore visibles. Ce fut Irene Adler qui commença.
« De quoi voulez-vous que nous parlions d'abord, Sherlock ?
De nous ou de ce jeu dans lequel nous sommes tous deux engagés ?»«
Ce n'est pas un jeu, » rétorqua Holmes d'un ton plus rude qu'il ne l'aurait voulu.
« Bien sûr que non. »
Irene Adler baissa les yeux sur ses mains croisées au-dessus du petit sac qu'elle tenait sur ses genoux.
« Parlons d'abord de nous, » proposa Holmes plus doucement.
« Très bien. Qui se lance ?»«
Je vous écoute, Irène. »
Elle tourna vers lui un visage faussement sévère.
« Comment se fait-il qu'il vous ait fallu près de 2 ans pour venir me retrouver en Amérique ?»
Holmes s'empourpra sans quitter des yeux les mains d'Irène.
« Personne ne m'a dit que vous étiez retourné en Amérique.
Personne ne m'a averti que vous attendiez un enfant.
J'ai passé presque une année entière à aller de troupe en troupe dans les théâtres anglais pour essayer de vous retrouver. »
« Quel bonnet !»
Holmes ne put qu'approuver de la tête.
« Et vous qui vous êtes préparé depuis l'enfance à devenir le meilleur détective privé du monde ?»
souligna-t-elle, mais cette fois d'un ton plus léger, s'amusant visiblement. Holmes hocha de nouveau la tête en levant enfin les yeux vers elle.
« Je ne suis pas parvenu à vous retrouver non plus en Amérique, »
rappela-t-il d'une voix douloureusement contrainte.
Elle tendit le bras et posa la main sur les siennes.
La raison en est simple. Dès que j'ai appris votre arrivée à New York et à Boston, par le bouche à oreille du théâtre, j'ai aussitôt pris un bateau pour la France.
Avec l'enfant, dit Holmes à voix basse.
Avec l'enfant,
répondit-elle dans un murmure. Quand le colonel Moran vous l'a-t-il pris ?
Lucas avait 4 ans, le lendemain de son 4e anniversaire.
Comment avez-vous pu laisser faire cet infâme personnage ?
Le colonel Moran me tenait en son pouvoir. Et c'est le même moyen de pression dont Lucan se sert à présent.
Oubliant ses bonnes résolutions, Holmes l'attrapa par les bras, puis fit remonter ses mains puissantes sur les épaules d'Irène, comme s'il allait l'attirer à lui ou l'étrangler.
Irène,
vous êtes la femme la plus forte, la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Comment un homme aussi méprisable que Sébastien de Moran a-t-il pu vous contraindre à abandonner votre enfant ? Notre enfant ! Les deux derniers mots ressemblaient à un gémissement.
Colonel Moran a menacé de vous assassiner si je ne faisais pas ce qu'il me demandait,
répondit-elle d'une voix blanche.
Tout comme Lucas le fait à présent.
Rendu muet par cette révélation, Holmes ne put que serrer plus fort les bras d'Irène. Il devait lui faire mal, sûrement, mais elle n'esquissa aucun geste pour se dégager. Elle posa à son tour les mains sur le haut des bras de Holmes, dans une attitude qui leur donnait l'air de se consoler l'un l'autre.
Vous vivez très imprudemment, Sherlock Holmes. Comme toujours. Cet imbécile d'ami médecin qui vous suit, ou alors Conan Doyle, je ne sais lequel des deux est responsable, vous expose sur la scène publique pour raconter vos petites victoires de détective de salon comme si vous étiez un héros. Et vous, vous continuez à rester assis devant votre fenêtre à la vue de tous. Vous déambulez dans la ville, perdu dans vos pensées, sans prendre garde à ce qui vous entoure. Vous rendez public l'adresse de votre domicile, vos habitudes. La seule raison pour laquelle le colonel Moran et ses acolytes ne vous ont pas assassiné depuis longtemps, c'est moi. Parce que j'accepte de me plier à leur demande.
Holmes laissa retomber ses mains et resta pensif un long moment. Finalement, il reprit.
Mais l'enfant? L'enfant est un monstre,
jeta Irène Adler d'un ton tranchant.
Il est mauvais depuis la naissance.
La tête de Holmes partit en arrière comme s'il avait été giflé.
Aucun enfant n'est mauvais de naissance, voyons. Cela prend des années, de mauvais parents, de mauvaises influences. Vous n'avez pas donné le sang à cet enfant et vu ses premières réactions,
rétorqua Irène Adler d'une voix totalement froide.
L'une des premières choses qu'il ait faites fut d'arracher les ailes d'un papillon que je lui montrais, et il y a pris du plaisir. J'ai cru avoir donné naissance à un nouveau Coriolan.
Et même Coriolan fut éduqué par... Il s'interrompit.
Éduqué par sa mère,
compléta Irène Adler visiblement au supplice.
Volumnis se vantait auprès des dames romaines que son jeune fils Coriolan aimait faire du mal aux animaux, à tous les êtres vivants même. Alors que je vous assure, jamais dans les 4 années que j'ai passées auprès de Lucan, je ne lui ai donné autre chose que de l'amour et je ne lui ai rien inculqué que le plaisir d'aimer et de respecter les autres.
Elle détourna le visage et s'écarta un peu en glissant sur le banc. Il se déplaça pour combler la distance et murmura
« Je voulais simplement dire que Coriolan avait été formé par des valeurs romaines dépassées et néfastes. J'ai toujours pensé que c'était ainsi que Shakespeare l'entendait. »
Irène Adler eut un rire, mais un rire amer et triste.
« Cela ne vous rappelle rien, Sherlock ? Notre rencontre à Londres dans la troupe de Henry Irving, qui préparait justement la mise en scène de Coriolan ? Moi, vieille habituée des planches que j'étais, jouant la matrone romaine Volumni à l'âge respectable de 22 ans, et vous, à 18 ans, doublure de Coriolan, ayant fugué de Cambridge après seulement quelques mois d'études, un total ingénu.
J'ai totalement oublié la pièce, avoua Holmes. Mais pas un seul des instants que nous avons passés ensemble. Elle lui caressa la joue du dos de la main.
Vous étiez tellement jeune, mon ami.
Holmes l'enlaça. Elle tenta de résister 1 ou 2 secondes, puis fondit dans ses bras. Vite, pourtant, elle posa une main sur la poitrine de Holmes et le repoussa fermement.
« Et maintenant ?»
reprit-elle.
« Il est temps de parler de ce jeu qui n'en est pas un, dans lequel nous nous trouvons mêlés.
Holmes eut du mal à recouvrer la voix et quand il put parler, ce fut avec une émotion mal contenue. « Si vous voulez. »
« Par laquelle de ces horreurs allons-nous commencer ?»
demanda-t-elle avec l'intention, semblait-il, de prendre un ton léger, mais sans parvenir plus que Holmes à ne pas trembler. « L'envoi des cartes de visite tous les ans le 6 décembre. » Il vit aussitôt qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce dont il parlait. Elle était fort bonne comédienne, mais Holmes avait maintenant de longues années d'expérience derrière lui et savait parfaitement détecter les menteurs à leur expression et à leurs yeux. Son incompréhension était sincère.
« Quelle carte ? Je suis allé déposer un bouquet sur la tombe de Clover tous les 6 décembre. Des violettes blanches qu'elle adorait. Et j'ai même envoyé quelques fleurs à Henry Adams ce jour anniversaire, mais sans jamais mettre de carte. »
Ned Hooper, le frère de Clover, est venu me voir à Londres il y a 2 ans. Il n'est maintenant plus de ce monde. Il m'a proposé $3,000 si j'acceptais de résoudre le mystère d'une carte de visite que recevaient les 4 membres encore vivants des 5 de cœur tous les 6 décembre, et ce depuis 1886. C'est un simple Bristol tapé à la machine, et qui porte toujours les mêmes mots. Elle a été assassinée. Irène Adler le regardait fixement.
Quelle cruauté! Jamais je ne ferai une chose pareille. Je ne vois pas non plus pourquoi Lucan se serait donné ce mal. Non, je ne crois vraiment pas que ce soit lui.
Holmes hocha la tête. Je ne pensais pas qu'il s'agissait de vous, mais je me suis engagé à trouver qui est responsable, et je me dois de vous le demander par respect pour la mémoire de Ned et l'avance de $1 qu'il m'a payé en 1891.
1891. C'est l'année où la presse a annoncé votre mort.
Commenta Irène Adler d'une voix grave.
Un accident survenu en Suisse, racontait-on, alors que vous vous battiez avec un certain professeur Moriarty dont personne n'avait jamais entendu parler?
Holmes hocha de nouveau la tête.
Je n'ai pas cru à votre mort cette fois-là,
ajouta-t-elle,
ni l'année suivante quand Lucan s'est vanté de vous avoir tué au Tibet.
Holmes sourit. Et pourtant, il a bien failli m'avoir. Il m'a tiré 3 balles de fusil dans le dos à 1 500 mètres de distance. Elle eut l'air surprise.
J'avais cru qu'il mentait. Comment avez-vous pu survivre? Je connais la puissance des armes de Lucan. Bien évidemment.
Pourquoi avoir choisi Clover et Henry Adams?
Ils étaient riches. Elle était faible. À l'époque, en 1885, Lucan avait besoin d'argent pour aller en Europe. Rien n'était plus facile que de faire chanter le couple Adams. Clover était tellement perdue qu'il ne m'a fallu que 2 jours pour devenir sa meilleure amie.
Mais vous avez continué à la voir pendant 7 mois. Lâcha Holmes durement.
Au bout de quelques jours, je me suis prise au jeu,
expliqua Irène.
J'aimais bien Clover. J'admirais son talent. C'était une bonne personne et une bonne photographe. Elle était beaucoup plus intéressante que son mari, un égoïste bouffi d'orgueil, qui utilisait tous les prétextes pour la rabaisser. Lui faire croire qu'elle était moins importante, moins capable, une moins que rien. Avez-vous lu le roman qu'il a écrit, Esther, qui est sorti peu de temps avant la mort de Clover?
Oui.
C'est à l'évidence un portrait d'elle. Pauvre Clover. Et elle est décrite comme une femme de peu d'intelligence, artiste médiocre, conduisant sa vie en dépit du bon sens, et toujours dépendante des hommes, ayant besoin d'un chevalier servant pour l'aider à obtenir la moindre chose, le moindre succès. Si mon mari avait écrit un tel roman sur moi, il ne m'aurait fallu que 2 balles pour lui régler son compte. La dernière pour abréger ses souffrances en tirant dans la tête, mais la première à un endroit qui lui aurait fait souhaiter une mort rapide.
Intéressant. Commenta Holmes cette fois avec un vrai sourire.
Donc, vous me demandez pourquoi j'avais choisi de faire de Clover et son mari mes victimes,
continua Irène. Holmes hocha la tête.
J'imaginais que ce serait le plus sûr moyen de me débarrasser de Lucan,
expliqua-t-elle avec amertume.
Mon cher cousin Clifton, un simple gamin.
Dans la pénombre, ses mains blanches se crispèrent.
Un simple gamin, mais un scélérat. Un scélérat qui exigeait plusieurs milliers de dollars pour aller en Europe, où il voulait retrouver son héros, le grand chasseur de tigres, le colonel Sébastien Moran, et s'associer avec lui pour tuer je ne sais qui.
Mais comment Lucan a-t-il appris l'existence de la lettre d'amour que Henry Adams a envoyée à Lizzie Cameron? Car j'imagine que c'est sur cette lettre que vous vouliez appuyer vos menaces. Irène Adler toussota comme un petit chien qui s'étouffe.
Bien entendu. Ce cercle d'amis était si petit, si incestueux, que malgré sa jeunesse, Lucan se doutait qu'il y aurait des scandales faciles à débusquer. Une fois que je suis devenue l'amie de cœur de Clover, j'ai été admise dans son milieu fermé de dames de la haute société. C'est Lizzie Cameron elle-même qui s'est vantée auprès de moi d'avoir reçu cette lettre de Henry Adams. Lucan l'avait prédit, et nous n'avons pas eu à aller chercher bien loin. C'est donc l'une des plus proches amies de Clover, de celle qu'on devrait éviter à tout prix, qui m'a tendu en riant l'arme du crime.
Pourquoi êtes-vous allé avec Clover, 36 heures avant la tragédie, rendre visite à Lizzie Cameron alors qu'elle gardait la chambre?
Je voulais que Lizzie nie l'existence de cette lettre. Je le lui avais demandé quelques heures auparavant. Elle s'était fait un peu prier, mais elle avait accepté.
Et l'a-t-elle fait?
Non. Elle avait la grippe et elle était d'une humeur massacrante. Elle s'est moquée de la pauvre innocente en jouant sur les mots. Elle prétendait ne rien y comprendre, puis l'instant suivant sous-entendait par ses silences l'existence de cette lettre. J'ai failli étrangler de mes propres mains cette femme infernale dans son lit à baldaquin de satin. Clover est rentrée chez elle convaincue qu'elle avait manqué à tous ses devoirs envers Henry, qu'elle n'était pas une bonne épouse, comme elle le redoutait toujours. Elle était terrorisée par les rapports sexuels qu'elle trouvait très douloureux. Bref, elle a conclu de tout cela que l'infidélité des pensées de son mari et son intérêt pour Lizzie Cameron était en réalité causée par ses propres défaillances.
Je ne vois pas en quoi il vous était utile de pousser Clover Adams au suicide. C'est cette question qui m'a toujours arrêté dans cette énigme.
Ce n'est pourtant pas bien compliqué. Lucan avait trouvé d'autres moyens de financer ses agissements. Des financements réguliers et dont il bénéficie encore à ce jour. Il n'avait plus besoin d'attendre qu'une épouse neurasthénique nous aide à faire chanter son mari.
Lucan a-t-il empoisonné Clover Adams? Demanda Holmes. Le long silence sembla jeter un voile sur les dernières lueurs du couchant.
Je n'en sais rien,
avoua enfin Irène Adler.
Je sais qu'il a mis le poison dans la chambre de Clover ce dimanche matin et monté le verre pris à l'office. Je redoutais qu'il tente de se débarrasser d'elle. Elle connaissait trop bien le cousin Clifton pour être sur ses gardes. J'ai couru chez elle ce matin-là, mais je l'ai trouvée morte par terre. J'ai entendu des pas dans l'escalier de service. Je pense que c'était Lucan qui partait. Pourtant, je doute qu'il l'ait forcé à avaler le poison. Et même qu'il se soit montré. Il me semble qu'il a suffi qu'elle voie la bouteille de cyanure de potassium, inexplicablement sortie de sa chambre noire, et le verre, trônant bien en évidence, pour perdre la tête. Elle a pu imaginer qu'il s'agissait d'une sorte de message que lui adressait son mari, ou un signe du ciel.
Après un nouveau silence, elle reprit.
Je me sens tout aussi responsable que Lucan de la mort de Clover Adams, même s'il ne lui a pas physiquement forcé la main. J'ai même ramassé le verre et je l'ai mis dans mon sac à main avant l'arrivée de la police.
Quand vous dites que Lucan est financé, de qui voulez-vous parler ? Des anarchistes ? Irène Adler éclata de rire. Une hilarité qui cette fois ne sonnait pas faux. Holmes se souvenait de ce rire qu'il avait toujours trouvé très beau.
Les anarchistes ne sont capables de financer personne, mon cher ami. Des anarchistes, voyons, ça n'a pas le sou. Certains sont de tels ivrognes, ou si dérangés, ou si paresseux qu'ils ne parviennent même pas à se faire embaucher dans les usines où ont toujours travaillé leur père.
Alors, qui ?
J'ai vu Lucan samedi dernier. Il s'est vanté de vous avoir suivi dans tout le site de l'exposition de Chicago, vous et l'écrivain que vous traînez partout. Vous êtes passé à moins de 50 mètres du pavillon consacré à l'un des premiers employeurs du colonel Moran et de Lucan Adler. Ce sont ces gens qui leur fournissent la liste des cibles à abattre. Et il paraît que vous n'y avez même pas mis les pieds.
Croup, lâcha Holmes après un temps de réflexion.
Mais oui, bien entendu.
Le colonel Rice avait beaucoup parlé de ce bijou de l'exposition, très admiré du moins par la gente masculine. Le gros bébé de Krupp était un canon monstrueux de 115 tonnes, tellement grand qu'il lui fallait un bâtiment entier situé entre le palais de l'agriculture et le lac pour être logé. Ce canon, construit dans l'usine de Fritz Krupp à Essen, était, dit-on, capable de tirer un obus d'une tonne à une portée de 30 km avec une force suffisante pour transpercer un blindage en fer forgé de 90 cm. Holmes ne s'y était pas intéressé, le bâtiment n'ayant pas de vue sur le palais de l'administration et ne pouvant donc pas servir de cache à un tireur. Pouvez-vous m'expliquer à quoi ces attentats tous azimuts peuvent bien leur servir ? Interrogea Holmes, qui entendit la réponse éclater dans sa tête une fraction de seconde avant qu'Irène Adler ne la lui donne à voix haute.
« À déclencher une guerre ?
Où ça ?
N'importe où. C'est égal pour eux, pourvu que les grandes puissances européennes y soient mêlées. D'après ce que me dit Lucan, je pense qu'ils misent principalement sur une explosion dans les Balkans.
Dans ce cas, pourquoi tuer un président américain ?
Un simple galop d'essai ? Des plus faciles ? Les présidents américains sont toujours tellement accessibles.
Irène, savez-vous quel emplacement Lucan a choisi pour tirer? Savez-vous où le tueur va s'embusquer?
Non, je ne le sais pas.
Il l'empoigna de nouveau par le haut des bras et serra avec une force qui aurait fait demander grâce à un homme de plus ample carrure. Ne la quittant pas des yeux dans les dernières lueurs de cette soirée d'avril, il vit qu'elle ne mentait pas. Il la relâcha.
Pardonnez-moi. Je sais qu'il s'attend à ce que vous découvriez sa position de tir,
murmura-t-elle. Holmes remarqua qu'elle ne frottait pas ses bras, pourtant certainement douloureux.
Comment cela ?
Il m'a averti qu'il vous tuerait presque en même temps que le président Cleveland.
Savez-vous quand ?
Il ne l'a pas précisé, mais je connais Lucan. Il tirera sur Cleveland pendant son discours. Quand la foule fera silence et que tous les yeux seront tournés vers le président. Un coup de génie, selon ses mots.
Savez-vous comment il compte s'échapper ?
Je ne sais pas comment il fuira la cage d'où il compte tirer, mais je sais que ses commanditaires ont affrété un bateau qui l'attendra sur le lac, non loin du bord. D'après Lucan, le Zephyr, propulsé à voile et à vapeur, avec son moteur moderne et son équipage entraîné à la course en Allemagne, est beaucoup plus rapide que les embarcations qu'utilise la police sur les grands lacs.
Ah, merci. Merci. Irène Adler porta la main à son médaillon, l'ouvrit et l'inclina pour voir l'intérieur dans la quasi-obscurité du crépuscule. Un instant, Holmes crut qu'elle y gardait un daguerreotype de lui-même ou une mèche de ses cheveux, mais ce n'était qu'une montre miniature.
« L'heure de nous quitter est venue, monsieur Holmes, »
dit-elle doucement. Fâcheuse rencontre au clair de lune. Elle lui sourit avec le naturel d'autrefois du temps où il allait avoir 19 ans.
« Mais ce n'est pas la lune inconstante que tu vois par-dessus la haie, mon triste Roméo, »
déclama-t-elle.
« C'est un réverbère qui éclaire là les pavés du cimetière. »
Il ne se leva que lorsqu'elle décida de le faire, puis il attendit. Elle attendit aussi, et enfin se tourna vers le passage plus clair qui permettait de sortir de l'hexagone. Il la suivit un demi-pas derrière elle. « Je vous raccompagne à votre voiture, » annonça-t-il en lui présentant le bras. Ils avancèrent à travers l'herbe humide, distinguant mal les pierres tombales, formes vaguement menaçantes et crépusculaires. Des lumignons brûlaient au coin de son élégante voiture couverte. L'image très réaliste de Lucan Adler surgit alors dans l'esprit de Holmes. Il le vit sortant le bras par la portière et lui tirant une balle en pleine poitrine avec un Colt 45. Holmes secoua la tête pour chasser cette pensée, repoussa le cocher empressé et aida lui-même Irène Adler à monter dans sa voiture vide. « Quand nous reverrons-nous » demanda-t-il, tenant la portière ouverte tandis qu'elle prenait place sur la banquette.
« Eh bien, à votre enterrement ? Ou à mon exécution ? Probablement ?»«
Non !» protesta Holmes d'une voix si forte que le cheval effarouché fit fouetter sa queue et que le cocher se retourna en haut de son siège. Elle se pencha alors vers lui et l'embrassa passionnément sur la bouche. Sans lâcher le visage de Holmes qu'elle tenait entre ses mains, elle dit doucement
« Si nous avons la chance imméritée d'échapper aujourd'hui au sifflet du serpent, nous ferons mieux avant longtemps. Donnez-moi vos mains si nous sommes amis. »
Holmes lui prit aussitôt les mains et les serra entre les siennes.
« Et la chance ou la providence prouvera sa reconnaissance. »
Elle referma la portière et s'écria
« Allez, cocher ! Roulez !»
Holmes resta un moment immobile dans le noir, puis il retourna à la tombe de Clover Adams. Il s'arrêta à l'arrière du monument de granit et frappa sur la pierre avec le poing. La paroi tourna sur ses gonds. Le chef du Secret Service au département du Trésor, Andrew Eldrumon, sortit de la sépulture et la referma derrière lui.
« Avez-vous tout entendu ?»
demanda Holmes d'une voix lasse.
« Oui, tout, » répondit Drummond. « Cela nous sera très utile. »
Il saisit le bras de Holmes d'un geste plus volontaire et masculin que ne l'avait été celui d'Irène quelques minutes plus tôt.
« Holmes, l'aspect personnel de ce que j'ai entendu. Je vous donne ma parole d'honneur et je jure sur la tête de mes enfants que jamais je n'en répéterai un mot à quiconque. »
Holmes haussa les épaules comme pour dire qu'il savait quel risque il avait couru en se montrant aussi vulnérable.
« Je vais faire rechercher et surveiller le Zéphyr immédiatement, » ajouta Drummond.
Holmes hocha la tête.
« Mais ne l'empêchez pas de jeter l'ancre aux abords de la foire de Chicago, »
conseilla-t-il de la même voix épuisée.
« Rien ne doit laisser deviner à Lucan que nous avons connaissance de son plan. » Il faut pourtant arrêter Mademoiselle Adler.
Sûrement pas dans l'immédiat. Sinon, autant envoyer à Lucan Adler un télégramme lui annonçant que nous savons tout.
Faites-la suivre si vos agents sont très discrets. Et quand je dis discrets, j'entends qu'ils doivent échapper à la vigilance d'un homme aussi subtil que ce serpent de Lucan Adler.
Et mieux encore, laissez-la sans surveillance, libre de ses mouvements jusqu'à ce que...
Comme il n'achevait pas, Drummond répéta...
Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je vous avertisse qu'il est temps d'agir.
Là-dessus, Holmes tourna les talons et s'éloigna vers la sortie. Derrière lui, Drummond souffla dans un sifflet de police et plus d'une dizaine d'hommes, des ombres parmi les ombres, émergèrent de derrière les arbres, les pierres tombales, les rochers et les monuments pour rejoindre leur chef. Des voitures de police arrivaient. À la lumière de leurs lanternes, Holmes vit que les hommes étaient armés de pistolets, tout comme Drummond, et que plusieurs portaient des fusils. Il n'aurait pas pu empêcher Lucan Adler de l'abattre. Le tireur aurait été trop bien camouflé pour être repéré. Mais il l'aurait pris une fois que le tir fatal aurait révélé sa position. Holmes fut conduit à la confortable voiture découverte qui devait le ramener en ville avec Drummond. Quand ils furent montés, Holmes surprit beaucoup Drummond en s'écriant, en souvenir d'Irène Adler.
« Allez, cocher! Roulez !»